Les auditeurs font de la radio sur Canal FM. Point de vue, analyse et commentaires. Parole à l'auditeur, l'émission qui élucide les sujets qui vous tiennent à cœur et que vous vivez tous les jours. Parole à l'auditeur, c'est vous qui avez le micro pour nous faire part de votre opinion sur une situation donnée. Rendez-vous donc tous les lundis à 15h avec Andrea Manim et Fousseni Saïbou. Parole à l'auditeur, vous avez la parole.
Auditeurs de Canal FM, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de parole à l'auditeur réalisé aujourd'hui par Andrea Manim. Au micro pour la présentation, je suis Fousseni Saïbou.
Parole à l'auditeur, la radio c'est vous.
La croissance économique des pays émergents est source de nombreux problèmes environnementaux. La surexploitation des ressources renouvelables, la production excessive des déchets du fait de l'activité économique et le rejet des gaz nocifs par les industries constituent les causes majeures de la pollution de l'environnement en Inde. L'Inde, qui détient le peu glorieux record mondial de la pire qualité de l'air devant la Chine, selon une étude de 2012 menée par les universités américaines de Yale et Columbia. Aussi, une enquête d'un organisme de surveillance environnementale estime que 80% des eaux usées du pays ne sont pas traitées et s'écoulent directement dans les fleuves, polluant les principales sources d'eau potable. Ruben Bossandjou est le secrétaire exécutif du groupe de réflexion des organisations écologiques des Caraïbes et d'Afrique francophone, GROECAF.
Tout commence par la démographie. Plus il y a beaucoup de têtes à nourrir, plus les politiques cherchent tous les moyens comment satisfaire les besoins de la population. Alors, en Inde, comme vous le savez, il y a le problème de pollution. Parce qu'il y a d'abord l'industrialisation. Cette industrialisation cause assez de problèmes. Il y a d'abord la pollution atmosphérique. Aujourd'hui, nous avons le problème de changement climatique. Et en Inde, tant bien même que certaines personnes aujourd'hui font un effort de s'accommoder, de rester dans la production agricole biologique, mais il y a assez de intrants chimiques qui polluent l'environnement. Et les eaux des Indes, vous le savez, aujourd'hui c'est tellement pollué, d'autant plus que tous les résidus des industries retombent dans l'eau. Et là, ça tombe dans l'eau et vous comprenez au moins la suite.
Parmi les trois pays émergents, l'Inde, la troisième puissance économique d'Asie, connaît depuis une dizaine d'années un rapide développement économique et un afflux urbain de population rurale à la recherche d'un emploi et d'un meilleur niveau de vie. Des jeunes étudiants de l'université de Lomé que nous avons rencontrés sont bien conscients des énormes problèmes environnementaux que l'exode rural peut engendrer dans une ville.
L'exode rural dans la ville peut entraîner le surpeuplement urbain, ce qui aura comme conséquence un problème de logement avec son cortège, tout ce qu'on peut en savoir. Sur le plan environnemental, ça peut entraîner l'usage excessif des engins qui peuvent entraîner l'échappement des gaz, aussi l'encombrement de la population et par l'exode rural peut entraîner les dépotoirs sauvages dans les différents coins de la ville, ce qui peut rendre malade la population urbaine.
De nos jours, dans les villes, l'exode rural peut apporter de nombreux problèmes. Bon, sur le plan social, nous allons remarquer que dans les villes, il y aura d'abord un surpeuplement, ce qui va engendrer le problème de logement. Et plusieurs sont venus des villages qui n'ont pas des habitations dans la ville, mais ont un objectif à atteindre qui est de faire d'autres travaux à part les travaux champêtres qui sont énormes dans les villages. Et arrivés dans la ville, ils n'ont pas d'habitation, alors ils vont se lancer peut-être dans certaines choses qui vont leur permettre d'aboutir rapidement à leur objectif, mais qui ne sera pas dans l'avantage de la population. La population étant grande, alors on aura aussi des problèmes à la gestion de l'environnement. Avoir les ordures un peu partout. Tant que la population augmente, bon, les déchets sont jetés un peu partout, les dépotoirs sont faits dans des endroits non sûrs et cela entraîne la pollution énorme de l'environnement.
Devant une situation aussi chaotique que celle de l'Inde, la recherche de l'équilibre entre le développement économique et la production industrielle reste la meilleure approche pour résoudre efficacement les problèmes de pollution. Ruben Bossandjou.
Voilà, lorsqu'on parle de développement économique et la protection de l'environnement, moi je me dis ça, il faut progresser, il faut développer l'économie du pays, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut apaiser les gens, mais entre-temps on rend les gens malades. Donc, il faut que ça soit quelque chose équilibré. Équilibré comment? Il faut qu'on aille vers des solutions propres. Je prends un exemple, s'il faut parler par exemple de l'agriculture. Écoutez, lorsque nous sommes en train d'utiliser une agriculture industrielle, vous savez comment est-ce que nous sommes en train de faire? On est en train d'abattre des petits îlots de forêt que nous avons et ça crée déjà des problèmes de désertification. Et là, on n'a plus cette fonction de photosynthèse qui arrive à séquestrer le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène. Ça n'existe plus et on aura assez de problèmes dans les dérèglements climatiques. Et puis, on aura le sol qui va se dégrader. Et là, ça se dégrade, on aura comme solution des engrais chimiques. Et grave encore, pour nourrir les gens en agriculture aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, les gens utilisent les herbicides. Vous comprenez? On veut produire, on veut aller loin. Mais comment produire? Et quel est l'impact qu'il y a par rapport à l'environnement? D'un côté, vous cherchez à vous développer sur le plan économique, mais pensez à l'environnement. Il faut qu'il y ait au moins des actions pouvant protéger l'environnement. Là, je pense que les choses iront de mieux en mieux.
Aujourd'hui, pour résoudre de nombreux problèmes environnementaux, les experts en énergie et les écologistes recommandent l'utilisation de modes de production plus propres aux énergies renouvelables, en particulier grâce aux progrès techniques. François Boriga Thiem est ingénieur électricien et directeur planification et investissement à la compagnie Énergie électrique du Togo.
Bon, une énergie renouvelable, c'est une énergie qui se régénère d'elle-même. Donc c'est vrai que le terme renouvelable peut paraître un peu impropre. C'est comme si c'est quelqu'un qui le renouvelait. Non, donc il ne faut pas une action humaine. C'est la nature qui fait que l'énergie se renouvelle, se régénère. Vous entendrez aussi parler des énergies propres, des énergies durables. Donc ce sont des termes qu'on utilise souvent en technique. Mais d'une façon générale, c'est le caractère de renouvellement, de régénérescence qui fait qu'on les appelle des énergies renouvelables. Et par exemple, l'eau, l'hydraulique. Donc tant qu'il pleuvra, il y aura l'eau dans les rivières. On pourra utiliser cette eau-là pour produire une force motrice, pour produire l'électricité. Si vous prenez le soleil, tant que la Terre existera, le soleil brillera. C'est vrai que parfois il y a des nuages, tout ça, là, mais c'est la nature qui fait que cette énergie-là est toujours là. Si vous prenez les déchets ménagers, tant que l'homme vivra, il produira des déchets. Donc ces déchets peuvent être utilisés pour produire de l'énergie, pour produire une force motrice. Le vent, on appelle souvent la biomasse, la bagasse. Donc la nature produit la forêt. L'homme transforme ces plantes-là pour autre chose, mais les déchets peuvent servir à produire de l'énergie, à produire une force motrice, ce qu'on appelle souvent bagasse, biomasse. Tant que l'homme cultivera, il produira des résidus issus des cultures. Donc il y a ce caractère perpétuel de ce type d'énergie-là, donc qui fait qu'on les appelle des renouvelables.
L'exploitation de ressources non renouvelables au travers de l'extraction minière ou de la consommation de combustibles fossiles sont responsables de la pollution de l'air par le CO2 et le SO2, des nappes et des rivières par le nitrate et les pesticides et de la contamination des sols par des métaux lourds comme le mercure toxique. L'utilisation donc des énergies renouvelables permet de réduire les effets de ces éléments sur la nature. François Boriga Thiem.
Vous savez, depuis des décennies, le monde vit des transformations profondes au niveau du climat. Le réchauffement climatique aujourd'hui est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc le réchauffement climatique est un fait, donc il faut vraiment faire attention. L'utilisation de ces énergies-là nous permet de moins polluer, nous permet de détruire moins notre nature. Les énergies fossiles ne sont pas là pour l'éternité. Si vous découvrez le pétrole aujourd'hui, on vous dira qu'on va produire tel million de barils par jour, que le gisement va durer peut-être 50-60 ans. Donc c'est des énergies qui vont finir. Donc tôt ou tard, le pétrole finira. Bien entendu, on découvre toujours par ici, par là, des gisements, mais ce qui est sûr, ce n'est pas pérenne. Donc il faut prévoir ce qu'il faut faire après que ces sources-là seront épuisées. Et aussi, ce sont ces énergies fossiles-là qui produisent plus. La combustion de ces énergies donne plus de CO2, de gaz carbonique. C'est cette gaz carbonique-là qui va ronger l'ozone, qui crée le réchauffement climatique. Donc on ne peut pas arrêter tout de suite, mais il faut progressivement diminuer l'utilisation de ces ressources-là, de ces sources d'énergie qui sont polluantes, et aller vers des sources plus propres. L'eau, quand l'eau tourne une turbine, elle dégage pratiquement, elle ne dégage pas de CO2. Quand le vent vient tourner votre pale, elle ne dégage pas de CO2. Quand le soleil brille, tape sur un panneau et produit de l'énergie, elle ne pollue vraiment pas.
La dimension sociétale et sociale est au cœur des questions climatiques, énergétiques et environnementales. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement publié en juin 2010 et qui se base sur un projet pilote développé au Népal, le développement des énergies vertes est l'un des meilleurs moyens de lutte contre la pauvreté. Mais de manière générale, nous assistons au balbutiement des pratiques de la RCE, responsabilité sociale des entreprises dans les pays émergents. Celle-ci étant principalement le fait des grandes entreprises et de la société civile. Ruben Bossandio de CRUECAF.
Aujourd'hui, avec la responsabilité sociétale des entreprises, je pense que si toutes les entreprises arrivaient à respecter cette responsabilité sociétale qu'on appelle RCE, je pense que les choses iront de mieux en mieux. C'est quoi, par exemple? Je me dis, aujourd'hui, les gens qui produisent les sachets plastiques, par exemple, ils doivent mettre en place un système de recyclage. Vous comprenez? Vous produisez, mettez un système de recyclage. Là, ça devient de plus en plus propre. Allez, tout ce qui est propre, cela veut dire que cela n'est pas l'inocuité, qui n'est pas le problème aujourd'hui de nuisance environnementale. Là, ça serait une très bonne chose.
Les industries ne sont pas les seules responsables de la dégradation de l'environnement. L'homme, par son mode de vie, exerce quotidiennement une pression sur l'environnement, parfois sans en être conscient. C'est l'empreinte écologique. Armand Samaro est environnementaliste.
Lorsque vous passez plus de temps sous une douche, vous gaspillez de l'eau. Vous êtes en train d'exercer une pression sur les ressources en eau et votre empreinte écologique augmente. En termes de déplacement, lorsque vous êtes deux à vous déplacer de la même maison et que chacun a un véhicule, vous rejetez plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et plus nous consommons la viande, plus la demande en viande augmente. Donc la demande au niveau de l'élevage augmente également. Et nous savons que les déchets d'animaux, lors de leur dégradation en aérobie, produisent du méthane, qui est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. Lorsque on utilise la réfrigération, la climatisation, même la climatisation des véhicules, rejette des AO. Ce sont les substances appauvrissant l'ozone.
L'automobile, dans une ville hautement peuplée comme Bombay, génère au quotidien d'énormes quantités de dioxyde de carbone. Le transport en commun est une des solutions proposées par les écologistes.
Vous savez, avec les dégagements des tuyaux d'échappement et tout ça, d'abord, hein, ça crée des problèmes de dioxyde de carbone et c'est là à cause des problèmes de changement climatique. Et puis, dès lorsqu'on parle de l'automobile, on parle de l'essence. Alors, c'est déjà d'abord une ressource en voie de finition. Il faut déjà voir les circuits lorsqu'on va extraire le pétrole. Tout ce qui rentre en jeu, c'est tellement de problèmes environnementaux, il y a tellement de problèmes écologiques, d'autant plus que ça pollue. Et les résidus aujourd'hui des pétroles, c'est avec ça qu'on trouve aujourd'hui les pesticides, on trouve des engrais chimiques, on trouve des sachets plastiques non biodégradables. Donc c'est tellement un circuit chaotique par rapport à l'écologie. Aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les gens vont marcher à pied et tout ça, ainsi de suite? Mais le problème, c'est que vous savez, aujourd'hui, dans d'autres pays, les gens commencent à faire un effort de pouvoir prendre les transports en commun. Vous savez, vous pouvez garer votre voiture, vous prenez les transports en commun. Et dans d'autres pays, c'est comme ça. Si vous allez aujourd'hui en Europe, même le problème du parking qui se pose, il y a certaines personnes qui se disent aujourd'hui, sorte avec ta voiture. Si vous êtes peut-être 4 personnes, on utilise une seule voiture, tant même que chacun sa voiture. Donc il y a l'individualisme et l'égoïsme, et les gens n'aiment pas. Comment comprenez-vous que dans la voiture, une seule personne qui quitte les bureaux, qui habite même quartier avec d'autres amis, ils ne les prennent même pas, et chacun doit maintenant chercher à prendre la moto et tout ça, ça crée des problèmes. Donc il faut vraiment un changement de mentalité. Il faut l'éveil des consciences pour que les gens puissent savoir au moins chacun doit participer pour atténuer un peu ce problème de transport. Parce que le transport pose assez de problèmes. On ne parle pas que d'automobile, il faut parler de bateau, il faut parler d'avion. Vous comprenez, c'est tellement un problème. Mais moi, je pense que pour l'automobile, il y a quand même une petite solution. Il faut que les gens puissent apprendre maintenant à prendre les transports en commun. C'est une très bonne chose.
Pour amener l'homme à prendre conscience de son empreinte écologique, la Jeune Chambre internationale Lomé Azur, à travers son projet Club Jeunes Citoyens, passe d'entreprise en entreprise pour sensibiliser les travailleurs et leur apprendre à calculer leur empreinte écologique. L'organisation espère ainsi réduire l'action de l'homme sur la nature. Midai Kwasivi est le président de la Jeune Chambre Lomé Azur.
Il faudrait que nous reconnaissions que chacun, au niveau individuel, laisse toujours une empreinte sur l'environnement. Je prends juste l'exemple, si vous avez l'habitude de cuisiner sans fermer votre marmite ou casserole avec son couvercle, vous consommez beaucoup plus d'énergie et donc vous libérez jusqu'à 100 kg de CO2 par an dans l'environnement. Par contre, si vous choisissez de fermer à chaque fois votre marmite lorsque cela est possible, avec son couvercle, vous économisez 100 kg de CO2. Et là, ça, c'est une contribution minime, mais quand on va calculer cela à l'échelle de Lomé ou bien à l'échelle du Togo, une fois qu'on aura fait la somme de ces petits efforts, ça aura un impact beaucoup plus grand et donc nous aurons contribué positivement ou significativement à la préservation de notre planète.
Aujourd'hui, les dirigeants doivent comprendre qu'aucun projet ne doit plus naître sans une étude préalable de son impact sur l'environnement. Ceci pourra prévenir tout risque de pollution. Ruben Bossanjou.
Lorsque nous sommes en train de réfléchir sur une activité économique, lorsque nous sommes en train de réfléchir sur un projet, nous devons nous dire, ce projet, quel est son impact sur la vie humaine? Quel est l'impact sur le vivant non humain? Quel est son impact sur la planète? Parce qu'un déséquilibre écologique au Togo peut avoir des répercussions jusqu'au niveau des îles de Tonga en Océanie. Donc le vrai problème, c'est l'économie verte doit tenir compte de ces paramètres. Et dès là, si nous devons vraiment faire et comment réduire tous ces risques. Lorsqu'on trouve que dans l'impact, il y a peut-être des impacts négatifs, on s'est dit maintenant, comment réduire ces impacts négatifs? Je pense que les choses iront de mieux en mieux.
Les étudiants de l'Université de Lomé pensent qu'il faut contrôler la démographie humaine si l'on veut réduire la pollution dans les grandes villes.
En ce qui concerne la démographie au Togo, il va falloir sensibiliser les parents, les jeunes, à savoir comment contrôler le taux de natalité chez eux à travers le plan familial ou bien encore d'autres méthodes contraceptives pour limiter un peu la démographie. Mais dans le deuxième cas, dès que nous prenons le cas du Chinois, on voit que la démographie constitue aussi un atout de développement. Encore pour avoir une démographie, il va falloir que cette démographie soit d'une manière méthodique, quoi, à tel point que les jeunes ou bien les nouveaux-nés soient productifs dans le pays.
Il faut limiter l'exode rural, il faut créer les structures dans les campagnes, notamment sur le plan du divertissement par exemple, il faut créer les centres de loisirs dans les campagnes pouvant permettre à la jeunesse des campagnes de se divertir et par moment et limiter l'attrait de la ville. Il faut aussi créer les petites entreprises dans les campagnes pour pouvoir permettre aux jeunes de bénéficier quelque chose pour pouvoir limiter le déplacement vers les villes pour la recherche de l'emploi.
Citoyens, politiciens, acteurs de la société civile, leaders religieux, tout le monde a un rôle à jouer dans la préservation de l'environnement. Avoir des comportements citoyens serait un facteur déterminant dans cette lutte.
Moi, je me dis toujours, je n'aime pas qu'on indexe seulement les industriels. La population doit faire quelque chose. La population doit avoir ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Comment voulez-vous comprendre, chers journalistes, la nuit, lorsqu'il pleut, vous voyez des bons citoyens qui ouvrent l'air faussétique, dégager toute la saleté et verser ça dans la rue. Et après, ce sont leurs enfants qui vont marcher, qui vont faire tomber la nourriture et manger. Après, on tombe malade. La population doit mener des actions. La théologie, il faut qu'il y ait l'écologie dans la théologie. Aujourd'hui, il faut que les églises puissent se mettre, que ce soit les églises, les mosquées, tous les leaders. Au niveau des partis politiques, on nous dit toujours, non, il faut voter pour aller au pouvoir. Mais quelle est la place de l'écologie dans les partis politiques? On n'en trouve toujours pas. Il faut que les partis politiques puissent aussi s'y mettre. De dire aux militants, ça ne marche pas. Il faut un peu arrêter avec cette manière de dégrader l'environnement parce que, en ces comportements d'une manière nonchalante envers l'environnement, on est en train de se rendre soi-même un très mauvais service. Je pense que dans chaque parti politique, il faut qu'il y ait des programmes écologiques. Dans chaque église, il faut qu'on ait aussi un peu des serments qui touchent à l'écologie. Il ne faut pas survoler. Moi, je pense que le vrai problème, c'est la population. Si la population dit non, c'est non. Aussi longtemps que la population ne sait pas prendre des décisions, la population ne sait pas se décider, c'est là où on a des problèmes.
On peut aussi participer à la purification de l'air grâce au reboisement, mais pas n'importe lequel.
Le reboisement, c'est une très bonne chose. Mais quoi reboiser et où reboiser? Et comment reboiser? Aujourd'hui, les gens reboisent avec les têtes. Vous comprenez? Après, ils coupent les lèvres. Donc, moi, je pense qu'il faut reboiser, c'est bien, mais il faut chercher des essences qui peuvent aujourd'hui nous aider à ce qu'on appelle la promotion des produits non lignés. Cela veut dire, vous reboisez pour prendre les feuilles, vous reboisez pour prendre les fruits, vous reboisez, non seulement pour l'ombrage, il faut qu'il y ait un impact écologique. On peut reboiser avec les anarcades. Ce sont des choses comme ça avec lesquelles on peut faire des reboisements. On peut prendre les écorces, on peut prendre les feuilles, on peut prendre les fruits. Mais pas pour couper les bois et faire. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne une conscience et puis il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir compte là-dessus. Il faut que les gens aient au moins le gaz butane. T'as bien même, c'est pas aussi vraiment ça. Qu'on aille vers des énergies solaires. Je vous dis, il y a des fours solaires. Il faut qu'on y habite. On a des soleils gratuitement. Donc, les reboisements, c'est tellement une bonne solution parce que ça permettra aux plantes de séquestrer les dioxydes de carbone, de les transformer en oxygène. Ce serait une très bonne chose.
protection de l'environnement doit suivre la croissance économique afin d'éviter le déséquilibre des forces. C'est une responsabilité qui revient à tout un chacun de nous. Tout projet de développement doit prendre en compte l'aspect environnemental, ceci en vue de prévenir les risques de pollution. Dans notre vie quotidienne, des comportements sains doivent être mis en avant. Et il revient à l'État de mettre en place des mécanismes de contrôle de la démographie, le plus grand facteur de pollution dans le monde. Ce magazine s'achève ici. Merci de l'avoir suivi. Andrea Madim était à la réalisation. Au micro, appelez-moi Fousseni Saïbou. À très bientôt.